Télétransport a lancé une campagne de prévention routière dans les 10 régions du Cameroun. Emmanuel Junta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Voilà, le décor est planté. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype depuis Eben à l'île Maurice, le parlementaire Nandou Bouda, qui a occupé plusieurs postes ministériels entre 2000 et 2021 dans différents gouvernements de ce pays, dont ceux du tourisme, des affaires étrangères, de même que des infrastructures publiques et du transport routier. De Douala au Cameroun, Martial Manfred Missimikim, fondateur et président de Sécuroute Afrique, une organisation non gouvernementale qui a pour but d'améliorer la sécurité routière sur le continent. Manfred, que nous venons d'entendre dans le reportage d'Emmanuel. Et en direct de Dakar, Mouhamadou Moustapha Gueye, conseiller technique en sécurité routière au ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens du Sénégal. Nandou Bouda, je commence par vous. Comment expliquez-vous que des pays africains comme Maurice continuent d'importer des véhicules d'occasion de plus de 15 ans, contribuant ainsi à la hausse des accidents, alors que l'Europe et d'autres régions rejettent ces mêmes véhicules pour raisons de sécurité?
Alors, laissez-moi très brièvement, je voulais vous remercier pour m'avoir invité dans le cadre de cette émission, et je souhaite aussi dire la bienvenue à mes amis de l'Afrique. Quelques très, très brièvement, à Maurice, il y a à peu près 4000 km de route. Il y a 600 000 véhicules, il y a 150 morts par an, ce qui fait à peu près une moyenne de 12 pour 100 000. Voilà, le décor est planté. Je dois dire aussi que chaque année, nous avons à peu près 12 à 15 000 véhicules neufs qui arrivent sur les routes. Alors, moi, j'étais ministre et j'avais mis en place ce que j'appelle une stratégie très, très volontariste, très dynamique, avec en se modelant sur le système français, avec la mise en place d'une commission nationale présidée par le Premier ministre, avec tous les ministres concernés, une commission technique avec des techniciens, et aussi pour mettre l'accent sur le troisième niveau, c'est-à-dire il y a toujours ce qu'on appelle l'ingénierie, il y a le enforcement, c'est-à-dire la loi, et troisièmement l'éducation. Donc, ça avait donné quelques résultats, mais la spécificité de Maurice, c'est que nous avons 600 000 véhicules, nous avons à peu près 150 000 véhicules à deux roues, même plus, je pense, et que 45 à 50% des morts sont essentiellement des gens qui sont sur les deux roues. Donc, on a pu un peu cibler ce problème-là, et je suis venu avec ce que j'avais appelé les moto-écoles, c'est-à-dire qu'il y a une formation absolument nécessaire, obligatoire. Mais le gouvernement dans lequel j'étais n'a pas appliqué le côté, je dirais, obligatoire pour qu'on passe vraiment par les moto-écoles pour passer le permis. Ça ne s'est pas fait. Mais là, moi, je prône absolument que la moto-école soit obligatoire et que, même si ça coûte un peu, l'État pourrait éventuellement subventionner, parce que le nombre de morts, c'est une cinquantaine par an, et ce sont essentiellement des jeunes. Et c'est une grosse perte pour le pays.
Oui, mais justement, Nandou Bouda, les gouvernements africains sont-ils complices par leur manque d'action ou victimes d'un système globalisé qui condamne le continent à être le dépotoir des véhicules d'occasion du monde entier? Où est la véritable responsabilité?
Alors, je pense qu'il faut absolument avoir une politique volontariste. Oui. C'est-à-dire, il faut se dire que l'accident, ce n'est pas une fatalité. Oui. C'est extrêmement important. L'accident, une seconde avant l'accident, ce n'est pas un accident, une seconde après, ce n'est pas un accident. Donc il y a ce que j'appelle l'ingénierie, et là vous parlez du parc d'automobiles. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de véhicules de seconde main qui se retrouvent, qui viennent de l'Europe ou encore de l'Asie, qui se retrouvent sur nos routes. À Maurice, on a permis ce qu'on appelait le recondition, mais de plus en plus, on arrive maintenant avec, des véhicules qui sont neufs. D'accord. Alors, la chose la plus importante, c'est que il faut que les États africains disent que la sécurité routière, c'est une des plus grandes priorités sur le plan national. D'ailleurs, les Nations Unies, et j'avais fait venir Jean-Claude, l'ambassadeur à Maurice, oui. Les Nations Unies ont dit que the first killer, c'est-à-dire la première cause de mortalité dans les années qui viennent, serait sur les routes.
Voilà.
Et souvent, c'est les jeunes.
Oui.
Alors, pour revenir à la... Quel est le rôle de l'État africain? Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait de moins en moins de véhicules qui sont ceux qui viennent, ce qu'on appelle des reconditions.
Oui.
Et deuxièmement, il faut qu'il y ait, par exemple, à Maurice, une mise en place, les centres d'examen de véhicules avant qu'on leur donne un certificat de ce qu'on appelle le roadworthiness ou enfin un certificat de fitness pour que ces véhicules puissent se retrouver sur la route.
Oui.
Là, il faut être très sévère et il ne faut pas laisser les véhicules qui ne sont pas dans les meilleures conditions arriver sur les routes.
Voilà, nous voyons. Manfred Missinikim, vous qui êtes un fervent défenseur de la sécurité routière en Afrique, ne trouvez-vous pas paradoxal que malgré vos efforts, ceux de l'Union africaine et de l'ONU notamment, les taux de mortalité routière continuent d'augmenter? Où se trouve le maillon faible dans cette chaîne de responsabilité d'après vous?
Oui, ce que vous dites, le constat que vous faites est réel. Permettez-moi de rappeler que l'Afrique a 2% du nombre de véhicules et malheureusement 25% du nombre de tués. Alors où se trouve le problème? D'abord, le problème doit d'abord être perçu comme un problème d'ordre humain parce que c'est l'homme qui conduit le véhicule, c'est l'homme qui construit la route. Donc il est question de ce que ceux qui prennent le volant ou entrer dans la circulation, dans le flux, doivent être formés. Et quand ils sont formés, au bout d'un certain nombre d'années, ils doivent être recyclés. Et une fois que cela est fait, l'autre levier sur lequel il faudra jouer, c'est la qualité des routes et la qualité des véhicules. Et au moment où je vous parle, le système de véhicules que nous recevons, les véhicules que nous recevons en Afrique, ont déjà une moyenne d'âge de 25 ans d'utilisation. Et ces véhicules sont désactivés en Europe. Et quand bien ça arrive ici, il y a des systèmes de contrôle technique. Dans certains pays, c'est des contrôles techniques de convenance. Là où il y a des contrôles techniques exacts sur les véhicules, ces contrôles ne sont pas faits avec une certaine rigueur. Pour ce qui est des routes, vous le savez très bien, avec les ajustements structurels qui sont abattus sur le continent africain il y a une décennie, il y a eu un grand, très grand retard dans la construction de nouvelles routes, également dans la construction, dans la maintenance.
Ouais.
Et aujourd'hui, on essaie de rattraper le retard par des investissements massifs. Mais il faudra que ces routes qu'on voudrait construire aujourd'hui tiennent compte des types d'usagers et du niveau de la motorisation qui a augmenté entre-temps. Et c'est là où il y a des incongruités.
Je vois mes manfreds, Missinikim. Comment expliquer une telle situation dans une région qui a pourtant le plus petit parc automobile, vous venez de le dire, au monde, et l'un des réseaux routiers les moins denses? Les Africains doivent-ils accepter cette hécatombe comme une fatalité ou pointer du doigt les failles béantes des systèmes politiques et économiques du continent? Brièvement, si vous pouvez.
Oui, mais il faut déjà le dire que tout ce qui touche au comportement humain a du mal à être éradiqué. Et le comportement humain. Donc, en dehors de... Il y a des questions aussi stratégiques qui sont aussi à mettre sur la table, notamment la plupart des pays n'ont pas des organisations, des administrations, chefs de file pour coordonner la sécurité routière au niveau national. Il y a des pays qui n'ont pas une stratégie cohérente et réaliste et volontariste, comme vient de citer l'ancien ministre de l'île Maurice, parce que chaque stratégie n'est pas basée sur des actions qui donnent des résultats immédiats, à savoir de jouer sur les facteurs de risque, notamment pour la santé et la sécurité, l'interdiction du téléphone au volant, le non-refus de consommer l'alcool au volant avant de prendre le volant et le respect des limitations de vitesse. Tout ça, c'est une question systémique. On ne peut pas juguler un seul point et considérer qu'on peut inverser la tendance. Il est question de régler le problème de manière globale en jouant sur ce qui concerne le véhicule, l'automobile et l'humain. Tout ça mis ensemble pour porter des résultats dans un futur proche.
Permettez-moi de m'adresser maintenant à Moustapha Gueye. Au Sénégal, des mesures ont été annoncées à maintes reprises pour améliorer la sécurité routière, particulièrement après des accidents tragiques. Mais pourquoi ces promesses ne sont-elles pas systématiquement suivies d'actions concrètes? Le laxisme des autorités n'est-il pas finalement la véritable cause de ces tragédies?
Il y a l'accident des autorités parce que vous avez annoncé une série de mesures qui sont souvent prises. La dernière en date est de 2021 après un accident qui avait fait 60 morts. Et le lendemain, l'administration s'est regroupée pour sortir 22 mesures. Ces 22 mesures ont été prises entre la date de l'essai, entre l'heure de l'accident et 8 heures après. Donc la première question que je m'étais posée à l'époque en tant qu'expert est qu'ils ont mis combien de temps pour réfléchir sur ces 22 mesures-là. Et 3 ans après la prise de ces 22 mesures, quand on évalue parmi ces 22, il y a 4 qui ont été appliquées. Et ces 4-là, c'est la résultante du code de la route. Donc c'est toujours un problème de politique publique au niveau du Sénégal, ça l'a toujours été. Mais on a une nouvelle administration qui a pris le taureau par les cornes en organisant les états généraux des transports. Là, on est en pleine assise des transports. On est en train de faire le diagnostic complet et sans complaisance de la situation pour que de pareilles situations ne se produisent plus. Parce qu'à chaque fois, au Sénégal, on prenait des mesures au lendemain des accidents de la route. Et ces mesures-là n'étaient jamais appliquées. On n'allait jamais au bout de la réflexion par rapport à ces mesures-là. Et à chaque fois, les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Mais aussi, il y avait l'absence de formation des chauffeurs professionnels. Certes, il y a les autres écoles qui font un travail remarquable, mais au niveau particulier, au niveau des chauffeurs professionnels, il n'y a rien qui a été fait. Et la nouvelle loi dont s'est doté le Sénégal permet maintenant la mise en place du statut du chauffeur professionnel. Pour être chauffeur maintenant, le simple fait d'avoir le permis de conduire ne suffit plus. Il va falloir faire des formations poussées dans des structures dédiées par l'État du Sénégal. Mais aussi, il y a la mise en place du permis à point, il y a la mise en place du contrôle verbalisation et la vidéo-verbalisation, les radars qui sont présents maintenant sur nos routes. Donc, on espère qu'avec la mise en place de cet arsenal de mesures, d'ici 10 ans, on va essayer d'inverser la tendance. Parce que les statistiques de l'État font état de 750 morts par an, alors que les ONG sur place font état de 3000 morts par an, parce que même la remontée posait problème. Parce qu'au niveau étatique, on ne prenait que les morts sur le lieu de l'accident. Alors, selon l'OMS, il faut faire un suivi 30 jours après, jusqu'à la certification du certificat de guérison. Ce qu'on ne faisait pas avant, ce qui faisait que nos politiques publiques étaient mal orientées. Parce qu'on ne savait pas si les victimes sont décédées sur le lieu de l'accident, ou bien c'est en cours de transfert, ou bien c'est au niveau de l'hôpital. Ce qui fait qu'on ne savait pas si le plateau médical était parlé, si aussi l'efficacité de l'intervention était remise en cause, tout ça on ne savait pas. Donc on ne pouvait pas savoir sur quelle orientation se baser pour mieux définir la politique publique en fonction des statistiques qu'on avait. Donc on a fait la réforme du BAC, le bulletin d'analyse des accidents corporels, qui a été refait. Et sur cette remise à niveau, on a inclus la directive de l'OMS qui dit que les victimes des accidents doivent être suivies 30 jours après pour éventuellement savoir sur quel levier ils ont été tués. Est-ce que c'est l'accident en tant que tel, ou bien est-ce que c'est l'évacuation, ou bien est-ce que c'est au niveau des structures sanitaires. Donc on est en état général sur ça, et je pense qu'au sort de ça, les restitutions permettront d'avoir un référentiel sur lequel on pourra s'adresser.
Voilà. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite du Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci.
Sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des foules, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B de 16h30 à 17h, temps universel, sur VOA Full Day.
Jacques-Henri rester de retour avec vous dans Washington Forum, une édition enregistrée le jeudi 24 octobre 2024. Chaque jour, des centaines de vies sont brutalement fauchées sur les routes en Afrique, où règne vétusté, insouciance et corruption. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria ou au Cameroun, les accidents meurtriers se multiplient, emportant avec eux des familles entières, des enfants, des innocents. La situation est telle que le continent bat des records mondiaux de mortalité routière, avec notamment des infrastructures inadaptées, des véhicules vieillissants et le non-respect du code de la route. Au total, quelques 225 000 personnes ont été tuées sur les routes africaines en 2021, soit environ 620 par jour, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et si le continent n'abrite que 4% du parc automobile mondial, il concentre 19% des morts sur la route en 2023. Je vous propose maintenant quelques commentaires Facebook. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Si nos routes continuent de tuer, c'est parce que l'incivisme est à son paroxysme. Des conducteurs qui ne respectent pas les panneaux de signalisation et les feux tricolores. À cela, ajoutons la corruption qui encadre la délivrance des permis de conduire. Il serait aussi judicieux de retirer les cercueils roulants de la circulation afin de préserver des vies humaines. L'ASCA SEC de Dakar, au Sénégal, les accidents de la route font beaucoup de victimes et les principales causes sont le non-respect du code de la route et la vétusté du parc automobile. En ce moment, le nouveau ministre des Transports a initié les assises du transport pour réfléchir sur les solutions idoines à mettre en œuvre pour réduire l'hécatombe sur nos routes. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, les accidents de la route en Afrique sont le résultat de mauvaises conduites, d'incivisme, d'excès de vitesse, d'appels téléphoniques au volant et d'états d'ivresse. Il faudrait une prise de conscience des usagers de la route et de lourdes sanctions des autorités pour remédier à cela. La route ne tue pas, mais ce sont ceux qui conduisent qui tuent. Et Alphonse Boakid en RD Congo, les routes doivent avoir des poteaux de signalisation pour avertir les conducteurs, des poteaux qui représentent par exemple des enfants en uniforme et avec des sacs de classe. Cela prouve qu'une école est dans les parages et les conducteurs doivent mesurer leur vitesse. Il faut aussi des signaux qui indiquent notamment des ravins et des virages. Voilà pour ces commentaires. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités de la ville d'Ébène à Maurice, le député Nande Boda, ancien ministre des infrastructures publiques et du transport routier de ce pays. De Douala au Cameroun, Martial Manfred Missimikim, fondateur et président de Sécuroute Afrique, et depuis Dakar, Mohamedou Mustapha Gueye, conseiller technique en sécurité routière au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal. Nande Boda, les gouvernements africains luttent-ils vraiment contre la corruption rampante qui gangrène l'obtention des permis de conduire? Une amélioration de la sécurité routière est-elle possible sans une refonte radicale de ce système d'après vous?
Moi, j'avais introduit beaucoup de législations, notamment concernant l'alcoolisme, et aujourd'hui, nous avons introduit une nouvelle législation concernant l'utilisation de la drogue. On ne peut pas, c'est-à-dire, comme on dit, la drogue, et il faut choisir. Moi, je pense que la corruption, c'est souvent la petite corruption, c'est-à-dire que on laisse le conducteur s'en aller, on laisse le véhicule rouler sur la route, et à Maurice, on parlait à l'époque de ce qu'on appelait une petite monnaie, c'est-à-dire une petite somme modique. Mais je crois que la solution dans tout ça, c'est l'éducation. Il faut que les gens comprennent qu'une vie n'a pas de prix. Et que surtout quand il s'agit de jeunes qui meurent sur la route. L'éducation, et il faut que l'éducation concernant la sécurité routière commence dès le jeune âge, c'est-à-dire au niveau du primaire, au niveau du secondaire et au niveau même du tertiaire. Et il faut absolument qu'on y ait un combat contre la corruption à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau sur les routes. Il faut que la corruption est un problème endémique, c'est un problème national. Il faut que la corruption puisse se battre contre la corruption à tous les niveaux. L'obtention du permis, l'obtention de le roadworthiness certificate, si jamais il y a une voiture qui n'est pas en bonne condition, on laisse passer. S'il y a un agent qui a obtempéré, mais il laisse passer le véhicule parce qu'on lui a offert une petite monnaie. Je crois que la corruption, c'est une question de mentalité. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que les gens doivent comprendre qu'ici, une petite corruption peut avoir des conséquences énormes, c'est-à-dire c'est la perte de vie. Et tout le monde sait que quand il y a un accident et qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher dans sa vie, c'est que l'accident a fauché. On se souvient toujours où a eu lieu l'accident et comment la personne qui nous est proche est morte. Et souvent pendant des années et des années. Donc c'est une cicatrice éternelle. Donc il faut absolument que l'éducation soit une éducation continue à tous les niveaux, parce qu'il faut avant tout sauver des vies.
Oui, absolument. Malheureusement, le temps file. Je vais essayer de poser des questions aux deux autres invités. Manfred Missimikim, l'Afrique est la région qui compte le plus grand nombre de piétons parmi les victimes d'accidents de la route. Pourquoi, selon vous, les gouvernements africains continuent-ils de concevoir des infrastructures centrées sur les véhicules motorisés au détriment des piétons et des cyclistes ? Brièvement, si vous pouvez.
Oui, permettez-moi de placer juste un mot pour dire que la législation est un point essentiel de la sécurité routière. Et en Afrique, nous avons des lois qui ne sont malheureusement pas complètes et celles qui existent ne sont pas appliquées. Pour ce qui est de la protection des piétons et des conducteurs de véhicules à deux roues, notamment les motocyclistes et les majeurs, parce que c'est des usagers vulnérables, et nous avons un déficit au niveau de la conception des routes. Parce que normalement, il faut décloisonner les flux entre les conducteurs de bus, de camions, de petites voitures et les conducteurs vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes. Donc, il y a une législation aussi qui doit être rigoureuse et avec couplée à une forte répression et à des sanctions. Parce que quelles que soient les campagnes que vous allez mener, quels que soient les types de routes que vous allez mettre en place, s'il y a des infractions qui ne sont pas sévèrement réprimées, vous êtes sûr que les fautes seront toujours commises et nous aurons toujours des hécatombes sur nos routes.
Moustapha Gueye, la question de la responsabilité individuelle des conducteurs est souvent pointée du doigt, mais ne pensez-vous pas que les pouvoirs publics en Afrique, comme l'État sénégalais, devraient également être mis en cause pour leur complaisance et leur incapacité, selon des observateurs, à faire appliquer les lois existantes de manière stricte?
Mais tout à fait. Moi, je ne vois aucun intérêt pour un État de mettre en place une bonne législation et derrière de ne pas l'appliquer. Et c'est ce qui nous a rattrapés, parce que la gestion de la sécurité routière, vous conviendrez avec moi que c'est sur une décennie qu'il faut mettre en place ces programmes. Et nous, la dernière décennie, on a mis en place pas mal de mesures qu'on n'arrivait pas à appliquer. Et à chaque fois, on voulait renvoyer la responsabilité des accidents sur les conducteurs. Certes, il y a la responsabilité humaine. Ça, on n'en disconvient pas, parce que les enquêtes de responsabilité déterminent tout le temps que l'humain est au cœur de tout ça. Mais si l'État avait pris la pleine mesure de sa responsabilité et d'appliquer les règles, la réglementation telle qu'elle a été éditée, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais on est en train de reprendre du poil de la bête, parce que tout simplement, au sein de ces États généraux-là, tout ce qui sera édicté comme loi et règlement sera appliqué sans complaisance, parce qu'on a compris que c'est la non-application de la réglementation qui fait que les accidents se succèdent et ne se ressemblent pas. Si vous allez par exemple en Europe, les Européens ne sont pas plus disciplinés que nous. C'est juste parce que chez eux, la législation elle est existante, mais aussi elle s'applique. Si vous commettez une infraction, quel que soit votre statut, quel que soit qui vous soyez, mais vous allez payer. Et ce qui n'existait pas chez nous maintenant, mais je pense qu'avec cette nouvelle directive-là, avec cette nouvelle équipe, on est prêt à mettre en place ces mesures-là et à les appliquer, parce que c'est uniquement en appliquant les mesures qui ont été édictées que nous pouvons faire baisser la mortalité routière, parce que tout simplement c'est la première cause de mortalité en Afrique alors qu'il y a les autres maladies qui sont là, qui ne font pas pire que l'alcool.
Oui, et voilà. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Nande de Bouda, Martial Manfred, Nissini Kim et Mouhamadou Mustapha Gueye. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Merci. Take care.